Alors là, vous avez 6 ans et on est dans votre chambre, Dominique Mercy.
Comment vous savez que j'ai 6 ans? On est dans ma chambre. On est dans ma chambre. Il y a deux lits côte à côte. Sur la droite, celle de mon frère plus jeune, et sur la gauche, le mien. À la gauche de mon lit, il y a une vieille cheminée dont on ne se sert plus. À la droite du lit de mon frère, il y a une grande armoire qui prend beaucoup de place et sur laquelle ma grand-mère faisait régulièrement une partie de crèche. L'autre partie, la plus importante, était sur la cheminée à ma gauche. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte, ne me demandez pas à quel âge, mais que le Père Noël n'existait plus parce que j'ai eu le malheur de me réveiller au dépôt d'une bicyclette au pied de mon lit. Donc j'ai compris pas mal de choses, mais j'ai fait comme si j'avais rien compris. Et trois éléments importants, c'est trois portes. C'est sur la gauche, la porte qui donnait sur la chambre de mes parents. Sur la droite, la porte qui donnait sur la chambre de ma grand-mère. Et devant, la porte vitrée qui donne sur la cuisine. Et c'est la porte la plus importante parce que c'est là où en m'endormant, j'avais la mélodie, les conversations de souvenirs entre ma mère et ma grand-mère pendant les séances vaisselle et fin de journée. Et c'est quelque chose que j'adorais, ça m'endormir avec ces conversations.
Est-ce que c'est un endroit où vous commenciez à danser dans votre coin?
C'est au moment où vous avez repris le micro, c'est exactement ça à quoi j'ai pensé. C'est à travers cette porte que ma mère s'est rendue compte qu'il y avait Anguille Souroche, parce qu'elle avait reçu pour son anniversaire, je crois que c'était ses 30 ans, un disque de la Sonate au clair de lune, un cadeau de mon frère aîné. Vous êtes bien renseigné. Et c'est vrai qu'à l'écoute de cette musique, je me suis mis. Et c'est un moment dont je me rappelle tout à fait avec mon frère qui était à côté de moi, qui me regardait avec, je crois, beaucoup d'attention et de respect. Et puis ma mère de l'autre côté, de ça, je m'en étais pas rendu compte. Ma mère qui regardait l'événement, on va dire, depuis la cuisine. Ouais.
Et qu'est-ce que ça avait suscité comme mouvement, comme envie de danser cette heure-là?
Je sais plus, mais je sais que ça a été un événement décisif qui a initié tout le reste de ma vie d'une certaine manière, parce que c'est là où ma mère a vraiment découvert qu'il y avait quelque chose de sérieux. On a vraiment reconnu quelque chose de je vais dire spécial, oui. Enfin, voilà. Et qui l'a fait se décider à tout faire pour que ça s'accomplisse.
I tried to talk about certain things. Yeah. I tried to speak about how much our people want to be loved, and many more things. I speak about the world today. I try at least, and I tell you the reality is much, much worse. It's much to find what I try so nicely on stage. That has nothing. It's very much more harder life, you know. But it's something for peace and not for war. What I do, I think.
Jamais on ne sera orphelin. Ce qui est beau, ce qui est bien, c'est que le regard qui vous a vu naître a beau disparaître, il vous a tellement regardé que la façon dont on est le fait exister. C'est cette chose pénible qui fait qu'il y a ceux qui vont mourir avant soi, à cause des années et parfois sans raison. s'adresse une liste assez insupportable, quelques prévisions sont possibles, et par précaution, il vaut mieux absorber les regards. Pina Bausch sera partie sans prévenir et avant Dominique Mercy. Il y a un corps qui manque, mais pas ses idées. Dans les pièces de Pina, il y a toujours eu la sensation que la vie était trop courte et qu'on ne s'aime peut-être pas assez. Il y a eu une femme qui se laisse tomber et qui dit juste avant « Je fais comme si je voulais être toute seule, mais en réalité, je veux que quelqu'un vienne. » Il y a eu une plainte d'amour, parce qu'on a tous en nous quelque part cette salle de bal un peu défraîchie où on se retrouve seul un moment. La pièce s'appelait Contact Off, ça partait du mot tendresse. Tendresse, qu'est-ce que c'est? Jusqu'où va la tendresse? Quand n'y en a-t-il plus? On est en 1978 et Pina Bausch dit qu'elle la reprendra quand les danseurs auront 60 ans. Elle n'a pas attendu que leur vie à eux avance autant, elle l'a créée avec des personnes âgées puis avec des adolescents. Avec Pina Bausch, c'est toujours mesurer la distance qui nous sépare les uns des autres, en centimètres et en qui va mourir avant. Comment défier le temps? La silhouette de Dominique Mercy, ça nous frappe parce que c'est le dessin mental qu'on a tous de soi, un corps qui avance envers et contre tout. Il y a des obstacles, il y a du vent, il y a de l'eau, des fleurs. Mais il y a aussi sa compagne, il y a leur fille qui dansera avec ses parents. Il y a sous nos yeux la mémoire des corps, comme en studio ce soir, il y a son ami Jean-Laurence Asportes. Dominique Mercy aurait pu devenir prêtre ou fermier, il y avait pensé. Finalement, il sera danseur et il a dans le corps le regard de Pina Bausch. Depuis août 1973, cet été-là, Dominique Mercy roule de nuit, tout est gris, tout est bizarre. Il arrive à Wuppertal et tout a commencé. Pina Bausch disait « Ce que je fais, je regarde. Je n'ai jamais fait que regarder les gens. » Contre cette chose pénible qui fait qu'il y a ceux qui vont mourir avant soi. Il y aura ce soir notre façon de faire comme si on était tout seul parfois, tout en sachant qu'en réalité, être orphelin, ça n'arrivera jamais. Il y aura Dominique Mercy, né un jour de 1950 à la campagne, qui enfant a toujours dansé dans son coin avant qu'on ne le repère. À Bordeaux, et puis à Amiens, et avant de rencontrer Pina Bausch et de partir à Wuppertal dès 1973. Il y aura son ami Jean-Laurence Asportes, né un jour de 1952 à Casablanca, et soliste à Wuppertal à partir de 1979. Il y aura à la musique, puisqu'il chante avec légèreté le temps qui passe, à la vie, à la mort, Nicolas Michaud est venu de Bruxelles avec sa guitare. C'est une vie d'artiste qui se déplie et ça commence par quelques indications de Pina Bausch. Ça date de 1982, ça peut être le début d'un mouvement.
Tendre un piège à quelqu'un, construire des pyramides.
Réfléchir à une phrase toute simple et la dire sans mots. Qui sait bien faire le poirier.
Tenir une cigarette. Lorsque les kangourous sont en danger, ils se retiennent avec les pattes avant à un autre animal et lui ouvrent le ventre avec les pattes arrière.
Album de poésie. Pose photographique.
Attitude de danse formelle et la façon dont on ne doit pas danser.
Pourquoi se donne-t-on tant de mal ? Peser quelque chose.
Une chanson à propos d'un arbre, enseigner une discipline.
Un signe de ralliement. Quand il faut faire très vite ses bagages et qu'on a simplement une petite valise et qu'on ne sait pas combien de temps on va rester absent. Qu'emporte-t-on alors ?
Quelle réaction avez-vous lorsque quelqu'un fait des plans à votre sujet ? Un exercice pour devenir plus fort ?
Vierge planante.
Mouchoir blanc.
En tant qu'artiste en danse, je ne suis pas en accord avec le refus du corps. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que pour moi, le corps m'a trop montré de beauté et tellement de richesse dans la vie. Je veux dire, même la mort du corps fait sens parce qu'il y a reconnaissance du corps. Donc pour moi, la danse, c'est de ce côté-là, d'un côté qui pourrait même sembler utopique. La danse est en quelque sorte une religion, mais pas une religion organisée, simplement un mode de reconnaissance de l'existence.
Dominique, merci. Jean-Laurent Sasportes, vous lisiez quelques indications, quelques thèmes, quelques phrases comme ça lancées en répétition. Qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite, ces phrases ou ces idées ? Inventer un nouveau signe de paix, vierge planante, une fois que le mouvement existe, une fois que le corps a pris le relais ?
Disons qu'elles sont l'étincelle de quelque chose. Ce sont des questions auxquelles Pina a pensé, à sa manière, en rapport à quelque chose qu'elle cherche sans vraiment le cibler, on va dire, qu'elle cherche à reconnaître. Donc elle prend tous ces détours, toutes ces petites étincelles pour justement provoquer des éventuelles réponses qui vont petit à petit créer le matériel qui deviendra la pièce après moult remaniements, éliminations, raccourcis, voilà.
Alors avant d'arriver sur scène, on va remonter un peu dans le temps. On a commencé dans votre chambre d'enfant, mais il paraît, Dominique Mercier...
On peut guère aller plus loin, là, enfin, je ne sais pas, je m'en souviens plus avant.
Mais alors justement, il paraît que le jour de votre naissance, ou alors autour de ce jour-là, il y avait des petits cochons qui couraient partout dans le jardin.
Oui, oui. C'est une anecdote qu'aimait beaucoup me rappeler ma mère à chaque souhait d'anniversaire, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché et qui a marqué notre rencontre dans ce monde. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me touchait beaucoup chaque fois qu'elle le mentionnait, effectivement, c'est vrai.
Les petits cochons dans le jardin.
Oui.
Et quand vous avez, quand vous êtes enfant, voilà, cet âge-là, 5-6 ans, votre mère travaille dans une librairie, c'est ça, papeterie?
Oui, une espèce de petit bazar de province en face du lycée de Talence. Donc c'est un commerce qu'elle avait repris en quittant Bordeaux, puisque elle a quitté ma Dordogne natale, dans laquelle je ne suis pratiquement guère revenu, pour prendre la direction d'un hôtel dans Bordeaux, et puis c'est quelque chose qui ne lui convenait pas. Donc elle a acquéri ce commerce qui était il y avait un petit peu de tout. Il y avait des sabots, de la laine, de voilà. Et puis petit à petit, elle en a fait quelque chose de plus ciblé, mais il y a toujours eu de la mercerie, des livres, de la papeterie. Et c'était un petit Éden, en fait, parce que c'était un endroit dans lequel j'aimais bien être, parce que c'était la porte ouverte selon les étapes de l'année, les fêtes de Noël, il y avait tout ce qui est... Mes premiers Tintin, Bibliothèque rose et verte, rouge et or, etc.
Et pas très loin, à quelques rues, il y avait un cabaret.
Ah, c'était à quelques pas de l'hôtel, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une espèce de cabaret qui procurait quelques clientes à l'hôtel. Et avec lesquels je m'entendais très bien. Je me rappelle, évidemment c'est des souvenirs entretenus, mais je crois bien me rappeler de moments justement sur le balcon d'une fenêtre avec des chaussures d'une ou deux des clientes. Ouais.
Et alors une fois que votre mère remarque que vous dansez dans votre chambre, mm-hmm. À quel moment vous commencez vers 7-8 ans c'est avec Madame Duprado.
Oui, on peut rien cacher.
Le premier cours de danse.
Oui, c'était mon premier professeur qui était la fille d'une des institutrices, maîtresse, on disait à l'époque, du cours préparatoire à l'école laïque. Et c'est elle qui m'a donné les premiers cours de danse et de piano aussi, de musique. Et c'était dans un petit garage aménagé dans leur cour, dans le jardin. Et à côté de, je vais vous devancer, et à côté de ce studio, il y avait un poulailler, effectivement. C'était un endroit magique. Enfin, je pense tout petit, ça devait faire même pas, le quart de ce studio. Mais pour moi, c'était magnifique. Il y avait deux fenêtres qui donnaient sur le jardin et le poulailler, justement. Et il y a une chose, je ne sais pas pourquoi, une chose dont je me rappelle, c'est des exercices face à la barre et le menuet de Boccherini. C'est un scoop, ça. Le menuet de Boccherini dans le studio. Je ne sais pas pourquoi, c'est une chose qui m'est restée comme ça.
Et alors là, est-ce que vous hésitiez encore avec devenir prêtre ou devenir fermier ?
Oh, c'est des choses effectivement qui m'ont traversé. Il y a eu devenir fermier, il y a eu acteur. Voilà, c'est des choses qui m'ont accompagné pendant quelques temps et puis ça s'est un petit peu cristallisé, mais la danse a vite pris ses droits et son évidence. Ouais.
Et devenir prêtre, c'était quoi le...
Je pense qu'à l'époque, devenir prêtre, c'était une espèce de... C'est peut-être relié aussi, je crois que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de vocation. C'est relié un petit peu au solennel, au rituel et au spectacle que peut être la messe, auquel j'aimais beaucoup assister avec une vraie ferveur.
Et vous racontez votre première rencontre avec Pina Bausch, c'est aux États-Unis.
Oui.
En 72, par
en
là.
En 71 ou 12, oui, 72, je pense, oui.
Et qu'est-ce que vous avez reconnu en elle qui résonnait avec ce que vous étiez ou ce que vous aviez envie de...
Je crois que... On a tout de suite senti qu'il y avait un lien, d'une certaine manière. Aussi parce que, justement, sur le plan artistique, j'ai tout de suite... c'est comme quand on essaie un vêtement et qu'on n'a pas besoin de... Ben voilà, ça c'est exactement, c'est la bonne taille, on se sent bien avec. C'est un peu ce qui s'est passé avec Pina. D'abord, j'ai eu le choc de Pina, danseuse et aussi, oui, danseuse, artiste elle-même, incroyable, magnifique sur scène. Et à travers sa façon de bouger, à travers aussi les cours que j'ai pris avec elle, je me suis senti vraiment, j'ai reconnu quelque chose que j'avais l'impression de... J'ai reconnu quelque chose. Une qualité, une façon de bouger, ou oui, c'est un langage dans lequel je me suis senti très vite... en italien, on dit al mio agio, pas à mon âge, mais à mon aise, chez moi, oui.
Parce que quand vous vous rencontrez aux États-Unis, elle ne parle pas anglais et vous ne parlez pas beaucoup allemand.
Elle parle sûrement mieux anglais que moi, mais elle ne parle pas le français et moi pas l'allemand. Donc c'est vrai que ça facilite pas les choses. Alors j'avais quelques bribes d'anglais quand même. Et puis voilà, on se comprenait par signe, par sourire, par... voilà.
J'ai lu que vous disiez, nous avons mangé ensemble un nombre incroyable de cheeseburgers. Nous sommes beaucoup allés à la piscine aussi.
Oui.
La piscine et les cheeseburgers, c'était l'Amérique.
C'était, et les Manhattan.
Ah oui.
Les Manhattan avec les petites cerises confites.
Le petit cocktail.
Dedans,
ouais. Ça, c'était la première rencontre s'est passée à travers la piscine, les cheeseburgers Manhattan,
entre autres. Effectivement. Et puis quand même le studio, quand même. Ouais. Voilà.
Et à quel moment elle vous a dit... est-ce que ça t'intéresserait de venir à Vue Portale, je pense, créer quelque chose?
Au bout de quelques temps de ce séjour à Saratoga, un jour dans la cuisine, elle m'a dit comme ça, elle m'a demandé si j'aimerais bien travailler avec elle. J'avais aucune idée de... Parce qu'elle n'a pas parlé d'un projet précis, parce que voilà, c'était juste une une chose comme ça. Et moi, j'ai répondu, bien sûr, oui, sans en savoir les conséquences.
Voilà. Et alors, quand on vous a demandé avec qui vous pourriez venir en studio, quelqu'un qui vous connaît bien ou avec qui vous avez un lien particulier, vous avez dit je vais venir avec mon ami Jean-Laurence Asportes. Ouais. Parce que justement, on a connu ces années-là ensemble et que, et que le lien, il date de ces années 70, 80 et qu'il est toujours vivant. Comment vous vous êtes rencontrés?
Moi, j'ai d'abord entendu parler de Dominique avant de le voir. C'est-à-dire, j'avais passé une audition et j'étais dans la compagnie. Et Pina m'avait dit, il y a Dominique et Malou. Avec tous les deux, j'ai commencé il y a quelques années, mais en ce moment, ils ne sont pas là. Mais ils vont venir. Et puis, je voyais dans ses yeux que c'était quelque chose d'important pour elle. Alors, bien sûr, ça m'a rendu très curieux. Et voilà. Ce dont je me rappelle, c'est que, en fait, ils m'ont beaucoup protégé quand je suis arrivé. Et je me souviens de la camionnette que vous m'avez fait cadeau.
Avec une camionnette? Le trou.
Oui, non, parce que, quand je suis arrivé, ils avaient une vieille camionnette et il y avait un trou dans le plancher. On pouvait voir la rue qui défilait en dessous. Et ils m'ont dit, bah, écoute, prends-la, tu vas en avoir besoin. Oui, moi, quand je suis arrivé, j'avais pas beaucoup d'expérience et pour moi, c'était des personnes que j'admirais beaucoup, qui étaient de grands professionnels. Alors, j'ai beaucoup appris en vous regardant.
Et vous, avant, vous aviez étudié les mathématiques, la physique, la philosophie?
Oui, j'ai fait ça, oui.
Ce que je n'ai pas étudié, moi.
Oui, j'ai commencé la danse très tard, j'avais 22 ans à peu près. Et avant, j'étais en fac. J'ai commencé avec Anne-Marie Porras, qui était une professeure de modern jazz à Montpellier. Et c'est elle qui m'a donné un peu le sentiment que, effectivement, je pouvais peut-être, malgré le fait de commencer tard, arriver à être danseur. Voilà.
Parce qu'une pièce comme 1980, c'est une partie de moi, comme un enfant. Et de temps en temps, il faut voir ses enfants. C'est pas quelque chose qu'on veut laisser tomber, parce que c'est une part de mon histoire. À l'autre côté, si on doit toujours donner quelque chose de soi-même, ça pose aussi des difficultés, parce qu'on n'est pas toujours dans sentiment auprès d'aller tout au fond. Et aussi, après un certain temps, on pense qu'on n'a plus rien d'offrir. Oui, qu'on a déjà tout dit, ce qui n'est pas vrai. Mais j'ai eu le sentiment de je dois vivre un peu avant de parler sur la vie.
C'était la voix de Lutz Forster, de la compagnie. Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette sensation que, puisque c'est pas chez Pina Bausch, apprendre un rôle, c'est donner de soi-même, de son histoire, de, comme il le disait, qu'il fallait vivre avant de pouvoir donner. Et est-ce que parfois, il y a eu des envies de partir pour se nourrir ailleurs et puis de revenir? Est-ce que cette question vous l'êtes posée?
Oui, bien sûr. Après mes deux premières saisons, j'ai vraiment ressenti une espèce de trop-plein. Bon, il y avait bien sûr quelques malentendus, des choses qui marchaient plus ou moins bien, ou avec lesquelles certaines atmosphères au sein de la compagnie, ou des désaccords, etc. Mais c'était pas le plus il y avait une espèce de trop-plein, parce que comme on a pu le comprendre, là, donc j'ai commencé relativement tôt. Donc à une époque où on est en fac, ou alors où on s'amuse avec les... c'est aucun regret, non. C'est simplement que c'est vrai que tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être prisonnier d'un rythme de travail et que j'avais envie de m'en débarrasser. J'avais envie de pouvoir de vivre éventuellement dans une grande ville comme Paris et puis pouvoir décider des cours que je prendrais, où et quand, et de ne pas être contraint d'avoir le cours le matin, la répétition, la pause, la répétition, le cours le matin, et donc ça a été une grande part de ma décision de quitter la compagnie pour justement un petit peu respirer autre chose et avoir une autre forme de vie. Oui, tout à fait. Et la deuxième fois, c'est j'ai jamais su vraiment pourquoi, mais par contre, une fois que j'ai eu quitté la compagnie, j'ai su que j'avais c'était peut-être aussi une forme de trop-plein ou de doute. J'ai eu un moment où j'ai pensé, bon, j'arrête. J'avais besoin de faire une pause sans savoir exactement où ça allait m'amener. Et puis, c'est bon, pendant le courant de cette saison, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était trop tôt pour aller s'enfermer au grand air dans un jardin. Et donc je suis revenu à Paris, j'ai repris des contacts avec les gens-là, et puis je me suis rendu compte que ma maison, la personne avec qui je voulais travailler, ma maison était à Wuppertal, et puis c'est devenu vraiment clair à ce moment-là, et c'est là où pour la deuxième fois j'ai frappé à la porte de Wuppertal, porte de Pina, et qu'elle a généreusement réouverte.
Jean-Laurent Sasportès, est-ce que il y a eu comme ça chez vous ce même mouvement d'avoir besoin de partir pour revenir ?
J'ai passé une quinzaine d'années sans me poser la question. Pour moi, je découvrais sans arrêt. Et puis au bout de 15 ans, enfin une quinzaine, 16 ans, j'ai commencé donc en 79-80, donc vers 96, j'ai eu le sentiment que je venais d'effectuer une sorte de cycle. Et ça a été très très difficile, mais en 96, c'est-à-dire 16 ans après, j'ai dit à Pina que je voulais bien essayer de me lancer dans la chorégraphie, d'essayer un peu le théâtre aussi. Et en fait, j'ai eu la grande grande chance qu'elle me propose de continuer à faire partie des pièces du répertoire, ce qui fait qu'en fait, quoi, ça fait... Mon Dieu, ça fait 20 ans plus tard, je suis toujours dans quelques pièces. C'est magnifique, en fait, de pouvoir rester avec la famille aussi, de temps en temps. Mais bon, j'ai jamais quitté, en fait. J'ai jamais quitté. C'est juste, j'ai été voir un peu ailleurs ce qui se passait, mais...
Il n'y aurait pas de bonne stéréophonie si elle ne s'accompagnait d'une bonne prise de son. C'est pourquoi les techniciens veillent à celle-ci de très près. En voici un autre. Bien entendu, nous pensons que vous êtes toujours à égale distance des deux haut-parleurs et qu'après réglage, le son parvient bien du centre.
Pour la légèreté du corps, ce sera la voix de Nicolas Michaud avec sa guitare en studio. C'est un Liégeois qui vit à Bruxelles, qui s'est baladé au Danemark sans connaître la langue, a acheté une vieille guitare, une boîte à rythme et s'est mis à écrire. Avant, il y avait eu le groupe Été 67, des années de tournée, du rock adolescent et énergique. Et maintenant, il y a sa voix qui chante à la vie, à la mort, tendue sur un fil.
Bonsoir, je suis Nicolas Michaud et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Entre deux rendez-vous, je vous déclare ma flamme. Entre deux rendez-vous, je vous déclare ma flamme. À la vie, à la mort. On sait bien que demain n'appartient qu'à la nuit, mais cela ne fait rien. On se donne à la nuit, à la vie, à la mort. Et les mots que l'on dit ne disent pas grand chose. Mais vous ne m'en voulez pas. Nous livrons à l'hiver des combats difficiles, des Ardennes à la mer. On enregistre des films à la vie, à la mort. Nous portons au bûcher les chagrins de l'enfance et courons délivrer, tenter notre chance à la vie, à la mort. Et le vent dans la plaine semble souffler pour rien. Vous ne vous envolez pas. Quand la neige aura fondu, nous battrons la campagne en attendant d'issue. Que la campagne nous gagne à la vie, à la mort. Et les mots que l'on dit ne veulent rien dire du tout, car vous ne m'en voulez pas. Sous un ciel inutile, nous nous faisons nos adieux, que quelques mots futiles pour se faire ces adieux à la vie, à la mort, à la vie, à la mort.
Puis on partageait les mêmes centres d'intérêt, les gens qui veulent être aimés, les relations humaines, les sentiments, les émotions. Et il fallait trouver une forme pour ces sentiments. Il ne s'agissait pas de représenter des sentiments bruts sur la scène, mais de leur trouver une forme artistique. On n'avait pas de longues discussions, parce que Pina n'aimait pas parler pendant les répétitions, mais on suivait le feeling.
J'ai une photo que je vais vous donner, Dominique Mercier et Jean-Laurent Sasportes, et que vous pouvez peut-être décrire, en tout cas ce moment-là. On vous voit tous les deux.
Comment la décrire, cette photo? C'est, oui. Un oiseau en cage et son ange gardien.
Tu me sembles bien, bien jeune, là.
Bon, on va passer à autre chose. Hein. J'aurais pas dû l'amener.
Non, ça rappelle de magnifiques souvenirs. C'est, ouais. C'est la première pièce que j'ai faite. Enfin, que j'ai faite, je veux dire, dans laquelle j'ai dansé.
Et pour Jean, je pense que c'était quand même... Café Müller est une pièce qui a fait partie un petit peu de notre intimité entre Malou, Pina, le compagnon de Pina, dont Jean a repris le rôle et qui nous avait quittés. On n'en a jamais vraiment parlé, mais c'est pas un rôle facile à prendre dans ce contexte. C'est un petit peu rentrer tout d'un coup dans quelque chose de très intime et fragile aussi. Oui.
Il faut dire peut-être qu'on parle de Café Müller.
Oui.
Je pense que... Oui. Ce qui est pour moi, la chance dans ce rôle, c'est que le public soit là ou pas. C'était tout à fait égal, en fait. C'était vraiment quelque chose qui se passait sur scène, une situation assez réelle. Donc, j'avais vraiment l'impression de vivre un moment réel, sans avoir le sentiment que c'était un spectacle.
Et justement, cette sensation de raconter une histoire, mais d'y mettre aussi son histoire à soi, et puis forcément la vie, vous dansez avec votre compagne Malou à cette époque-là, et votre fille qui n'est pas loin, à quel moment cette vie intérieure un peu qui se mêle finalement à l'histoire qui se raconte sur scène, comment vous en rendez compte et comment vous naviguez entre ces...
Justement, plutôt... D'abord, faudrait peut-être rectifier. C'est pas raconter une histoire. Je crois que ce qui se passe quand on est, en tous les cas, avec tout le travail, toute l'œuvre qu'on a traversée avec Pina, il s'agit plus de vivre quelque chose, de vivre quelque chose sur scène, plutôt que de raconter quelque chose ou de représenter quelque chose. C'est
Tout à l'heure, on lisait quelques mots, quelques situations, quelques thèmes qui pouvaient faire surgir des choses. Dans le journal de répétition de Two Cigarettes in the Dark, il y a aussi la description de recherches, de mots comme ça. Et puis, il y a un moment où, Dominique Mercy, vous vous souvenez d'un souvenir d'enfance où vous avez marché sur un serpent. Vous avez couru très très loin vous arrêter.
C'est vrai, ouais.
Et ça fait naître quelque chose sur scène, un autre moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de correspondances comme ça qui finalement, en effet, ne vous racontez pas du tout cette histoire sur scène. C'est pas l'objet, mais pour vous, il y a des correspondances comme ça entre.
Bien sûr, c'est toute la vie qui gagnent de leur importance au fur et à mesure, qui nous nourrissent. C'est ce qui fait ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on continue d'être. Oui, c'est bien sûr, c'est évident.
Et comment vous avez trouvé votre voix? Vous avez pris des cours de chant aussi?
Ah, cette voix-là,
ouais.
Je ne sais pas si je l'ai trouvée. C'est vrai que j'ai eu très envie j'ai failli, au moment justement de ce doute, j'ai failli arrêter la danse pour vraiment me consacrer complètement au chant. J'avais très envie de devenir chanteur d'opéra, puisqu'il faut le dire. Et donc j'ai pris par intermittence, j'ai pris des cours, donc qui m'ont un petit peu éduqué, enfin guidé. Je prends plus de cours, mais je continue à découvrir et j'ai toujours beaucoup de plaisir à ennuyer tout le monde en chantant.
Ah oui, dans les vestiaires, c'est un grand plaisir.
C'est terrible.
Il est un des seuls à dire que c'est un grand plaisir.
Mais il a l'air tellement heureux quand il chante.
On a ouvert le micro, vous pouvez continuer à chanter, Dominique Mercy.
Non. Elle chante trop bien.
C'est un
air que j'aime beaucoup, que j'avais choisi quand Pina m'avait demandé d'introduire, de chanter quelque chose dans Bandoneon. On a construit une petite scène avec ça. Oui. Et c'est j'aime beaucoup cette air, oui.
Dominique Mercy, on parlait des histoires de vie en parallèle.
Ouais.
C'est quand même une histoire assez incroyable que, enfin, dans le temps, que votre fille soit devenue aussi danseuse et
ouais.
était dans la compagnie avec vous, parce que c'était pas du tout écrit.
Non,
et d'ailleurs,
non.
Elle a commencé à danser, mais à faire, à s'éloigner un peu, non, quand elle était petite, de la danse.
Oui, oui. Elle a été, bon, elle fait partie des enfants, puisqu'il y en a eu d'autres au sein de la compagnie, mais elle était la première. Elle a fait partie des enfants qui ont passé un nombre infini de moments, d'heures dans le studio. Et c'est vrai qu'elle a été confrontée à des situations, je pense, pour de voir ses parents se cogner contre les murs, sans pouvoir discerner où est la vérité ou pas. Et puis je me souviens aussi, il y a quelques pièces où c'est vrai, j'ai des rôles, j'appelle pas ça travesti, mais où je porte des robes, ou une vieille femme comme dans Victor. Et puis il y a une époque où elle disait, bon, maintenant, papa, ça suffit maintenant, les vieilles en robe, tout ça, il y en a marre. Mais donc je crois qu'elle a eu, elle avait voulu commencer la danse, elle avait commencé, puis je crois qu'il y a eu un moment où elle a eu besoin de prendre un petit peu de recul, et puis c'est d'elle-même, beaucoup plus tard, vers 17-18 ans, où il y a l'époque de, avant de passer son bac, où elle a tout d'un coup eu vraiment envie de se replonger dedans, voilà. Et puis elle a pris vraiment, elle a pris les rênes en main, et puis elle s'y est attelée, et c'est quelque chose qui a grandi d'une très belle façon. Et puis donc il y a eu l'acceptation à l'école de Essen, donc la rencontre avec Pina, bien sûr, mais bon, la rencontre, disons, de travail avec Pina.
Et la première fois que vous l'avez vu danser le sacre, c'était quoi la sensation de l'avoir dansé à ce moment-là?
Je me souviens qu'on était dans la salle avec sa mère, et je crois que c'est le premier spectacle. Elle avait un élastique pour tenir ses cheveux en une espèce de queue de cheval, et elle a perdu son élastique. Je ne vous dis pas dans lequel Malou et moi on était au fond de la salle. C'était une vraie catastrophe. Mais c'était magnifique, bien sûr, de la voir là sur scène à réaliser quelque chose dont elle avait en plus, avec Sacre qui est un cadeau. Enfin, de pouvoir danser sacre à un moment donné ou un autre, je pense que c'est une expérience qu'on peut que souhaiter à tout le monde.
Et ensuite, danser ensemble, c'est encore une autre expérience.
Un autre cadeau.
Expérience,
ou... Un autre cadeau, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe dans la...
Mais c'est très curieux, parce que je me rappelle qu'il y a eu une espèce d'évidence. Ça faisait drôle de, suivant les pièces, tout d'un coup de voir notre nom, merci, au-dessus de costumes qui m'appartenaient pas. c'était un vrai bonheur, une belle chose.
Je dois dire, quand je pensais à Dusnelda, je pense qu'à un moment qui, moi, en tant que spectateur, parce que j'ai vu Dusnelda grandir depuis qu'elle était toute enfant, et dans Bandoneon, il y a une scène où Dusnelda a pris le rôle de Malou, et où Dominique...
Le rôle de sa mère.
Le rôle de sa mère, et vraiment, pour moi, c'était quelque chose vraiment d'impressionnant de voir la même scène avec Dusnelda qui avait pris le rôle de sa mère, et Dominique qui, en fait, c'est là où... C'était Calas, hein, cette scène. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique, magnifique.
Et vous, à l'intérieur des pièces, comment il avance le temps?
J'ai envie de dire, il avance comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire, je vois des pièces comme Café Müller, par exemple, que, bon, finalement, maintenant, ça fait 37 ans. Où... Et j'ai vraiment eu l'impression que, par exemple, pour parler de Café Müller, qu'en fait, c'est une situation de vie qui se passe, qui se répète, que le spectacle, c'est en fait juste une fenêtre qu'on ouvre et où le spectateur regarde pendant un moment ce qui se passe, mais... Et qu'on grandit et on vieillit à travers cette vie qui se répète.
C'est vrai que nos chemins dans ces pièces-là, les rôles, puisque ça devient des rôles qu'on assume dans les pièces de Pina, sont tellement une partie de nous, qu'il y a quelque chose qui grandit simultanément, c'est vrai, tout à fait. Alors, il y a des pièces qui permettent ce cheminement, ce vieillissement, parce que c'est pas forcément péjoratif, mais d'autres pièces où tout d'un coup, pour mon cas, en tous les cas, je me rends compte que, bon, maintenant, il est temps de remettre un petit peu le spectre de la pièce à sa juste valeur et de donner la place à quelqu'un de plus jeune pour que la pièce retrouve ou une dynamique ou une physicalité pour remettre les balances à niveau.
Alors en studio, on va écouter un nouveau morceau de Nicolas Michaud qui justement s'appelle Être deux et qu'on écoutera comme pour célébrer les pères que Pina Bausch a fait, défait, laissé s'approcher et puis s'éloigner. Nicolas Michaud.
First I stayed cold and weary when I felt you jetting me out. I thought I had way too much to lose. I had to save this frail reason of mine. But soon I caught myself hitting the highway, heading south of nowhere with you. Oh, Dieu, que c'est bon d'être deux. Oh, Dieu, que c'est bon d'être. Oui, Dieu, que c'est bon d'être deux. Oh, Dieu, que c'est bon.
Là, laisse-le partir un peu plus, Yves. Ça. Et tu fais ti. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à chaque fois que ça vient, c'est aussi ti di ram, que tu as plus de temps peut-être pour remonter, mais pas ti di ram. Le dernier, tu as pensé davantage à ouvrir ta main. Sinon, à chaque fois, c'est un petit peu le bras un petit peu trop courbé comme ça. Laisse ta main s'ouvrir vraiment et te tirer vers l'extérieur. Tu t'écartes un tout petit peu trop. Je crois que c'est ça qui est plus. Tu vois, tu t'en vas comme ça au lieu de le laisser partir.
Vis à droite. Regarde. Je sais.
Ne le blesse pas, Mathieu.
Non.
Ne le blesse pas.
Vas-y.
Ne le blesse pas, Dominique. Va
doucement. Non.
Pas trop. Tu vas le casser. Tu vas le casser, hein.
Et ça, je ne peux.
C'est un malade, ce mec. Hein.
Maintenant, rentre, va dans le sol avec l'autre pied.
Oui, mais Dominique, c'est une ancienne danseuse du Crazy Horse. Ce genre de choses, il n'a aucun mal. Hein? T'as fait 8 ans au Crazy Horse, Dominique, c'est ça?
Non, c'était Lido.
Ah, c'est Lido, pardon, je confonds toujours.
Ça te plaît, quand même.
Lido, Dominique, merci.
Oui, bien sûr, c'est mon rêve.
Cette exigence.
C'est quoi ce document là que vous avez?
Transmettez Orphée.
Oui, pour la,
au Ballet de l'Opéra de Paris.
Les répétitions, voilà. Je pense que c'était avec Yann Bridard, je pense. C'était les répétitions pour la reprise d'Orphée à l'Opéra de Paris, avec la voix et les commentaires de Fabrice Bourgeois. Le répétiteur qui est toujours à mes côtés quand je vais travailler avec eux à l'opéra, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui est très drôle et très efficace.
Et comment on transmet justement un rôle qui a été cousu sur vous, sur votre peau, sur ce que vous êtes, sur...
On défait les coutures, non? on met tout à plat, non, on... ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je pense que ça commence par le texte, par l'écriture. Mais je crois que des fois, on approche la qualité d'un mouvement si on sait d'où il vient et pourquoi il est là. Ça ouvre, ça donne des clés, ça ouvre des portes.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de la salida.
C'est un morceau, Dominique, merci, qui a été très présent, qui a inspiré une des dernières créations que vous avez faites avec Pina Bausch. Vous étiez parti au Chili en 2008 et c'est la voix de Violetta Parra, et d'ailleurs vous la connaissez aussi, vous étiez en train de la chanter.
Mais c'est une chanson magnifique qui a C'est toujours très touchant de l'entendre et difficile d'en parler parce que c'est vraiment c'est la dernière pièce avec Pina. Donc quand on n'est pas préparé, c'est toujours un peu difficile d'en parler.
Vous aviez raconté une petite histoire. Il y a un garçon qui vous avait, un petit garçon qui vous a vu danser, qui a demandé à son papa, mais pourquoi il danse, il a l'air triste. Pourquoi il a l'air triste en dansant? Est-ce qu'il a perdu son père ou qu'est-ce que ça?
Et c'est un quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'était le neveu d'un des danseurs de la compagnie. Son frère était en visite avec ses enfants et c'est lui qui m'a rapporté la phrase de son neveu. Et ça a été pour moi, en fait, il m'a fait toucher quelque chose dont j'étais pas conscient, je pense. Qu'effectivement, cet événement fait partie de moi plus que ce que je le pensais. Et que probablement ça a été, et peut-être que ça l'est toujours, je ne sais pas. Ça a été une essence et une motivation de ma danse. À un moment où on m'en a donné la possibilité, comme avec Pina.
J'avais envie pour la fin de l'émission que vous lisiez quelques mots sur des notes de répétition, ou en tout cas des notes de Raymond Hogg sur Café Müller.
Volontiers. Une plainte d'amour, se souvenir, se mouvoir, se toucher, adopter des attitudes, se dévêtir, se faire face, déraper sur le corps de l'autre, chercher ce qui est perdu, la proximité, ne savoir que faire pour se plaire, courir vers les murs, s'y jeter, s'y heurter, s'effondrer et se relever, reproduire ce qu'on a vu, s'en tenir à des modèles, vouloir devenir un, être dépris, s'enlacer, he's gone. Avec les yeux fermés, aller l'un vers l'autre, se sentir, danser, vouloir blesser, protéger, mettre de côté les obstacles, donner aux gens de l'espace, aimer.
On sera parti de la première danse vers 6 ans dans une chambre d'enfant. On aura dansé avec Dominique Mercy sous le regard de Pina Bausch. Et ce qui est beau et ce qui est bien, c'est que le regard qui vous a vu naître a beau disparaître, il nous a tellement regardé que la façon dont on est le fait exister. Avant la nuit, je dis merci à Cyril Baer, à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique, merci à Stéphane Desmonts et Célia Dufour.
too young.